la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux, je suis de nouveau à Maritsou en compagnie du Père José pour notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous venons de vivre dans la dernière émission le procès de Jésus devant Pilate, et puis maintenant la crucifixion et la mort de Jésus. Ce qui est frappant dans ce récit, c'est sa concision, sa sobriété, et ce n'est pas étonnant puisque le Père José nous a rappelé l'autre jour que ce texte est probablement un des textes les plus primitifs qui fait partie du noyau primitif de la prédication des apôtres juste après la mort, la résurrection et la disparition de Jésus. Je lis donc le chapitre 19 à partir du verset 16. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus le Nazoréen, roi des Juifs ». Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. En sorte que soit accomplie l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Père José, je vous propose de nous arrêter ici. Il y a encore un petit morceau du chapitre 19, l'épisode du sang et de l'eau, et puis la mise au tombeau. Il y a certainement pas mal de choses à dire. Au tout début, ils saisirent Jésus, portant lui-même sa croix. Jésus gagna le lieu dit du crâne, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Tout est très concis, très sobre, sans la moindre sensiblerie, mais avec une insistance sur ce fameux écriteau que l'on fait placer sur la croix, qui prend plusieurs lignes, plusieurs versets. Quel est le sens de cette sobriété et quel est le sens de cette insistance sur l'inscription de Pilate ?
Ce qui est extraordinaire, c'est que la mort de Jésus est résumée en un mot, là, ils le crucifièrent. Pas d'autres détails. Alors, de fait, l'écriteau, nous sommes ramenés de nouveau à Pilate. Pilate joue un rôle important dans tout ce récit. Et c'est lui qui achève, si je puis dire, de jouer son rôle par cet écriteau un peu, pas ironique, mais un peu dérisoire, qui s'est placé au-dessus de la croix de Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc Pilate reprend cette expression d'après le récit. Et évidemment, c'était comme enfoncer les Juifs dans leur forfait. Ici est le roi que les Juifs eux-mêmes ont crucifié. Donc, les grands prêtres se sentent évidemment touchés et disent « Mais il ne faut pas écrire le roi des Juifs, mais cet homme a prétendu être le roi des Juifs. » Et alors, la réponse de Pilate, bien romaine, « Ce qui est écrit est écrit, ou ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Pilate achève son rôle par cette phrase. En disant cela, Pilate reconnaît aussi son propre rôle, parce qu'il reprend le thème qui a motivé la condamnation de Jésus. Et ce thème, il lui donne comme une sorte d'éternité.
Et on peut dire aussi qu'il consacre en quelque sorte le caractère oui. dérisoire de cette, oui. de cette accusation, oui, et donc qu'il rend apparent oui. tout ce mécanisme de la violence.
Ah, tout à fait, tout à fait. Non, non, il joue son rôle jusqu'au bout. Les Juifs aussi. Non, c'est un récit étonnamment cohérent. Cohérent dans son horreur et dans sa violence. Et quant aux vêtements de Jésus, je crois qu'il y a le souci, de la part de l'évangéliste, de faire apparaître un texte de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, donc c'est-à-dire le psaume 22-19. Donc ce souci sobre mais présent de l'évangéliste de référer l'événement Jésus à toute l'aventure de l'Ancien Testament.
Et en même temps, ici, c'est un épisode où on dépouille Jésus de tout vêtement, et donc c'est significatif aussi.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il achève son dépouillement, là. Oui, oui.
Et puis, il y a cette scène qui est évidemment très connue de Jésus, Marie et Jean.
Oui.
C'est incroyablement sobre, c'est vraiment le minimum du minimum, ici.
Et pourtant, c'est une parole définitive. Ces deux paroles de Jésus ont un caractère définitif, éternel.
Pourquoi dites-vous définitif ?
Parce que Jésus, ici, donne à Marie son dernier rôle. Désormais, elle devient la mère de l'humanité. Ça, je crois que c'est très important. Et en Jean, Jésus nous inclut. Il se dépossède encore de sa propre vérité pour la partager.
Est-ce un petit peu le thème de ce dépassement ou de la vie qui déborde et qu'il invite donc et sa mère et nous, à travers Jean, à passer à un niveau supérieur à...
Oui, ça je crois. Je crois qu'il ouvre la passion à l'avenir. La passion donne son fruit dans cette parole.
Et même si ce texte est incroyablement concis, il y a une sorte d'apaisement. Il y a quelque chose qui se conclut d'ailleurs. Et depuis cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Oui. Il y avait une sorte d'accueil, véritablement.
Et de tendresse.
Absolument.
Oui, je trouve que c'est très beau de terminer le récit comme ça. C'est très, très beau. Et alors, pour que l'Écriture fût pleinement accomplie, Jésus fait son dernier aveu, sa dernière soif. Et de quoi a-t-il soif ? Et la soif de Jésus accomplit l'Écriture. Et nous avions déjà ce thème dans le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et ce thème s'y reprend tout à fait, le thème de la Samaritaine.
Et ici, ce n'est pas « j'ai soif d'eau parce que je suis exténué », c'est « j'ai soif ». Cette expression est en quelque sorte dans un sens absolu.
Ah, tout à fait, tout à fait. Le mot soif ici a toute sa grandeur. Et d'ailleurs, Jésus dit, quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est consommé. C'est la conclusion de toute l'aventure de Jésus.
Et la réponse des assistants, là, des hommes qui étaient tout autour, est encore une réponse au premier degré, et puis dérisoire, et en plus relativement cruelle, puisqu'il propose du vinaigre.
Tout à fait. Et oui, là, il y a une citation de psaume, là. C'est le psaume 69. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. » Donc c'est aussi l'accomplissement d'une phrase de l'Écriture.
Il y a le mot « accompli » ou « achevé oui. ». Oui. Et puis, il y a encore un mouvement, inclinant la tête, il remit l'esprit, il remit, remettre, c'est tout à fait significatif.
Ah, tout à fait. Je crois que c'est un mot essentiel dans notre propre devenir. Pouvoir remettre son esprit à Dieu, c'est entrer dans l'éternité. On ne dit pas « il mourut », mais il rend encore la racine de lui-même, il la rend. Une grande beauté.
Donc c'est de nouveau cette relation profonde entre le Fils et le Père.
Sûrement.
Et puis il y a le mot « esprit » quand même qui est là aussi.
Oui, c'est trinitaire.
C'est trinitaire. C'est là-dessus que nous allons faire une pause musicale, Père José, toujours avec Haydn et un extrait de « Cette parole du Christ en croix ».
Thank you.
sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 19 de Saint Jean. Nous venons d'assister à la mort de Jésus qui a dit « Tout est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Le Père José a insisté sur la richesse de cette dernière expression « Il remit l'esprit ». La fin du chapitre 19, c'est ce qui suit juste la mort de Jésus, à savoir l'épisode du sang et l'eau, et puis la mise au tombeau. Je lis à partir du verset 31. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais sans cacher, par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Voilà, Père José, il y a ce premier épisode du sang et de l'eau, et de ce regard qu'on porte à Jésus.
Il y a ici, à la fois, le récit garde sa sobriété, et pourtant, on multiplie un peu les détails. Alors, le fait qu'on perce le côté de Jésus d'un coup de lance, il en sortit du sang et de l'eau. C'est vraisemblable. Un corps mort contient encore de l'eau et du sang. Mais évidemment que la tradition chrétienne très tôt a voulu y voir l'annonce des deux premiers sacrements, c'est-à-dire le baptême et l'Eucharistie. Ce serait de ce détail que serait sortie la tradition du baptême, de l'eau qui sort du côté de Jésus et le sang versé pour nous et qu'il nous partage l'Eucharistie.
C'est manifestement important parce qu'il y a deux validations en quelque sorte. Oui. Celui qui a vu a rendu témoignage, c'est probablement l'évangéliste, et puis il y a le témoignage de l'Écriture.
Oui, c'est ça, c'est exactement. Donc il y a toujours ce souci de cohérence, de référence à l'Écriture, et ce sont deux très beaux textes d'ailleurs. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, c'est Zacharie, c'est un très beau texte, un des derniers textes prophétiques où se manifeste l'intuition d'un Messie transpercé. Et alors, l'insistance de l'évangéliste pour dire qu'il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez, donc il insiste sur ces détails qui pour lui doivent inviter et conforter la foi. Et quant à Joseph d'Arimathie, un des premiers disciples de Jésus, Mais on rappelle ici le thème de la crainte des Juifs, donc qui a été celle, au fond, des apôtres jusqu'au bout.
En effet, ici, c'est le courage qui parle, et chez Joseph d'Arimathie, oui, et chez Nicodème.
Évidemment. Hein. Donc, ils dépassent leur peur. Et ce sont les deux derniers témoins de ce qu'a été le Jésus terrestre. Et le fait qu'on le mette dans un tombeau tout neuf ouvre aussi sur une perspective d'avenir.
Alors vous insistez aussi, Père José, sur le fait que c'est un jardin.
Oui, le chapitre 18 a commencé par un jardin, Gethsémani, et le chapitre 20 se termine...
Le chapitre 19.
Et 19 se termine sur la mention de ce jardin, où nous allons retrouver, bien sûr, Marie-Madeleine et la première expérience de la résurrection.
Oui, puisque en fait, elle prend Jésus pour le jardinier. Hein, oui, mais nous anticipons un petit peu sur cette scène absolument magnifique. Donc, il y a véritablement la trace d'un grand écrivain ici.
Sûrement. Un écrivain qui a à la fois un sens de l'écriture, un sens du drame, mais dans la sobriété, et une sorte de transparence de la foi. Jean est lumineux.
C'est là-dessus que nous allons vous laisser, Père José. Merci à vous. Chers auditeurs, cette émission est la dernière de la saison 2016-2017. Nous continuerons cette lecture cursive de Saint Jean à la rentrée de septembre. Il nous reste les chapitres 20 et 21, et puis le retour vers le prologue, le chapitre 1er, que nous avons laissé pour la fin. Entre-temps, en juillet et en août, il y aura des rediffusions. Pierre-Paul Delvaux vous dit au revoir et vous laisse une fois de plus avec Joseph Haydn, la dernière des sept paroles du Christ en croix, « Tout est consommé », dans la version oratorio. Au revoir, à bientôt.